Ce serait dommage de passer par ici sans s'arrêter devant ce tel impressionnant, le tel de Lachish. Passionne les archéologues, les historiens. C'est connu par beaucoup de gens par la célèbre fresque qu'on a trouvée dans le palais des rois de Ninive, par la prise de Lachish. Alors, je n'ai pas ouvert d'archéologie et je voudrais me maintenir au plan de la signification et profiter de ce tel pour rencontrer ce Dieu de la Bible qui se présente partout comme un Dieu vivant, hein, plus fort que la mort. Et alors ici, nous sommes appelés à évoquer deux épisodes bibliques où alors Dieu apparaît comme celui qui a les issues de la mort. Dieu s'est montré pour nous le Dieu des délivrances, à lui sont les issues de la mort. En hébreu, ça sonne d'une façon extraordinaire. « Ha el, la nous, el, le moshaot, velelohim adonai, il la mavet totsaot. » Il a les issues de la mort. Et alors, dans la perspective de la BST, moi j'ai surtout envie d'évoquer ici cette expérience qui a été faite à deux reprises par le peuple élu à partir de Lachish, au peuple aux prises avec les grandes puissances. Ce peuple d'Israël qui dure à travers l'histoire a été affronté à ces grosses bêtes apocalyptiques des empires qui sont succédés dans l'histoire. Il y a eu les Assyriens, puis ensuite les Babyloniens, puis ensuite les Mèdes, et puis ensuite les Perses, puis ensuite les Grecs, puis ensuite les Romains. Et il continue à compter les points, il est toujours là. Il fait l'expérience d'un Dieu qui mène par-delà la mort. Alors c'est tellement important qu'on va s'y arrêter un petit peu. La Syrie, après s'être emparée de tous les royaumes avoisinants, est arrivée ici à Lachish, et de Lachish a préparé la prise de Jérusalem. Jérusalem est encerclée par les troupes assyriennes, elle est vouée à l'anéantissement, tout le peuple tremble. On va consulter le prophète Isaïe. Et le prophète Isaïe, alors, est un homme enraciné en Dieu, qui, dans une attitude de calme, invite à mettre sa confiance dans ce Dieu qui est les issues de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par le matin au réveil, cette même nuit, l'ange de Dieu sortit et frappa dans le camp assyrien 185 000 hommes. Le matin au réveil, ce n'était plus que des cadavres. Une espèce de délivrance analogue à celle qui s'est passée lorsque ce peuple a échappé à l'esclavage d'Égypte et puis s'est trouvé dans la liberté après avoir passé la mer Rouge. Et c'est le même langage qui est employé pour célébrer cette délivrance de Jérusalem à l'époque d'Isaïe, à l'époque des Assyriens. Ce langage qu'on chantait au temps de la libération d'Égypte. Alors vous avez toute une série de psaumes ici. On va prendre le psaume 48. « Grand le Seigneur et louable hautement, dans la ville de notre Dieu, le mont sacré, superbe d'élan, joie de toute la terre. Le mont Sion, cœur de l'Aquilon, cité du grand roi. » C'est comme ça que Jésus appelle aussi Jérusalem, hein, la cité du grand roi. « Dieu, du milieu de ses palais, s'est révélé citadelle. Les rois s'étaient ligués. Avançant à la fois, ils virent et du coup, stupéfaits, pris de panique, ils décampèrent. » Un tremblement les saisit, un frisson d'accouché. Ce fut le vent d'Est qui brise le vaisseau de Tarsis. Comme on nous l'avait dit, nous l'avons vu. Dans la ville de notre Dieu, dans la ville du Seigneur Sabaoth, Dieu l'a fermée à jamais. Nous méditons, Seigneur, ton amour au milieu de ton temple. Comme ton nom, Dieu, ta louange jusqu'au bout de la terre. Parcourez-la pour raconter aux âges futurs que lui est Dieu, notre Dieu au siècle des siècles. Lui, il nous conduit. En hébreu, c'est Yonahagenu. Al-Mout, qui semble bien vouloir dire, il nous conduit par-delà la mort. Alors cette expérience d'un Dieu vivant qu'on dit par-delà la mort, ben, on va la retrouver dans le Nouveau Testament. Et si vous lisez les discours de saint Paul dans les Actes des Apôtres, lorsqu'on le fait comparaître devant toutes les grandes instances de l'époque, là, à la fin de sa carrière apostolique, il dit « Mais c'est pour la résurrection des morts que je suis là. Comment peut-on être juif et puis s'étonner alors que toute l'histoire nous montre qu'on est aux prises avec un Dieu qui a les issues de la mort ?» Alors vous me direz ici, mais attention, temps de Jérémie, les Babyloniens qui ont absorbé l'Empire assyrien ont aussi pris Lachish comme base de départ pour la prise de Jérusalem et eux ont réussi. Et le peuple a été emmené en exil. Mais alors qu'est-ce qui se passe 40 ans après, avec l'édit de Cyrus, alors que le peuple n'était plus qu'haussement desséché? Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel. C'est une vision, on me dirait, oui, mais ça représente la réalité historique. Enfin, il y a des tas de peuples bien plus importants que le petit royaume de Juda qui ont été complètement anéantis à cette époque-là. Et voilà que c'était le royaume de Juda, après l'édit de Cyrus, contre toute espérance humaine, par une véritable résurrection entre les morts, revient en terre promise à Jérusalem, et l'histoire qu'on croyait interrompue reprend. C'est la vision des ossements desséchés, reprend par une véritable résurrection entre les morts. Et à mon avis, c'est un faux problème de se demander quand est-ce que la certitude de la résurrection d'entre les morts est apparue au plan personnel. Parce qu'un juif pense indissociablement l'histoire de son peuple et puis son histoire personnelle. En tout cas, il y a une chose certaine, c'est que la prière que disait Jésus comportait cette formule « Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, mechaye et hameti » « Béni sois-tu, Seigneur, roi du monde, qui ressuscite les morts ». Saint Paul, c'est intéressant, dans son procès, il dit au roi Agrippa, toi tu es juif, tu es capable de comprendre ça. Il y a un païen qui a préparé les minutes du procès, il dit, il s'agit d'un homme qui est mort et que Paul prétend être vivant. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Alors Paul s'adresse à Agrippa, qui dit, toi qui es juif, tu es capable de comprendre ça. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts de par la puissance de Dieu. Et nous, si nous ne croyons pas en cette résurrection des morts, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et cette certitude, elle est née dans l'histoire de par l'expérience que le peuple a faite de la puissance d'un Dieu capable de le sortir de toutes les impasses. Notre Dieu est un Dieu de salut, à lui sont les issues de la mort. Alors relisez ces textes d'Isaïe, de Jérémie, la vision d'Ézéchiel, les psaumes qui expriment cette extraordinaire délivrance, et puis ravivez en vous cette espérance de la résurrection d'entre les morts. C'est pas une idée, c'est pas une spéculation, c'est une certitude de foi qui est née dans le réalisme de l'histoire, de par l'expérience qu'on a fait d'un Dieu qui a les issues de la mort. C'est une théologie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham, c'est notre père dans la foi. Vous savez sur quel fond de tableau commence l'histoire d'Abraham. L'humanité, l'homme à l'image de Dieu, c'est comme désintéressé de Dieu. Et même à élaborer comme une sorte de contre-projet. Il y a un symbole là, extrêmement impressionnant dans la vie qu'on va retrouver tout le temps, faire des briques. Faisons des briques, et puis construisent la fameuse tour de Babel. Faisons des briques, ni le venin, le venim. On va retrouver ça avec les pyramides d'Égypte. C'est très curieux. Enfin, Dieu a un projet. Il met l'humanité en marche vers une ville dont lui est l'architecte et le fondateur. Et cette ville sera faite de pierres précieuses. Et il n'y aura pas deux pierres précieuses pareilles. Pensez à l'Apocalypse, pensez à Jérusalem qui est faite de pierres précieuses. Et alors, au lieu de rentrer dans le projet de Dieu, avec enthousiasme, et puis foi, espérance et amour, les hommes alors élaborent des contre-projets et font des briques. On est fait pour les épanouissements de la fécondité, et puis voilà que nous tombons dans les esclavages de la production, pour faire des briques. On est tous tentés d'échanger cette logique de fécondité contre la production et l'esclavage de la production, faire des briques. Et on peut faire des briques si on est curé, par exemple, et qu'on ne pense plus qu'à ce qu'on fait, à ce qu'on élabore, à ses plans, à ses projets, et qu'on oublie de prier. On peut faire des briques quand on est frère prêcheur, et puis que, voilà, on est tellement pris par son action que, en fait, on élabore son système à soi et on adore l'œuvre de ses mains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de remonter vers son Créateur dans un grand élan de convergence eucharistique où il trouve son harmonie, le monde, de par la faute de l'homme qui veut être roi de la création sans plus en être le prêtre, sans plus en faire l'hommage, eh bien le monde retombe au chaos, dans la multiplicité du chaos. On ne se comprend plus, c'est l'histoire de la tour de Babel. Alors sur le fond de la tour de Babel, Dieu met en route pour ce grand pèlerinage qui s'origine même encore plus loin qu'Abraham, et Abraham notre père dans la foi. Or, il y a une grande loi de la pédagogie divine que nous sommes appelés à formuler ici. Je l'ai trouvé admirablement formulé par Jean Guiton, dans un livre qu'il a écrit sur la Vierge Marie. Il montre que les commencements, dit Jean Guiton, sont toujours riches de signification, contenant déjà en germe ce qui va se développer par la suite. C'est en effet un des caractères de la conduite de Dieu sur l'histoire de ramasser en de certains moments critiques, en de certains êtres privilégiés, ce qui doit par la suite se développer longuement, se déployer, s'expliciter. Ainsi, l'homme inquiet, asservi à l'écoulement du temps, peut jouir de ce qui n'est pas encore. Alors, quand on lit ça d'Abraham, de notre père dans la foi, on sait déjà tout. Mais il nous reste ensuite à découvrir, dans le concret de l'existence, au fur et à mesure qu'on met un pied devant l'autre. Mais il faut lire l'histoire d'Abraham, notre père, dans la foi, dans cet esprit-là. Tout est déjà dit, et puis ensuite tout va s'expliciter au fur et à mesure que l'existence va se dérouler. Alors évoquons un petit peu l'histoire d'Abraham. Vous rappelez, Abraham est vieux, et puis Dieu le met en route. Lech lecha. Quand Dieu parle aux hommes, c'est pour les remettre en route. L'homme s'installe, il fait des contre-projets, il retourne au chaos. Et alors l'homme qui est fait à l'image de Dieu, Dieu l'aime trop pour le voir s'arrêter à des bonheurs au rabais. Il l'interpelle et il le met en route. Alors il y a ce mystérieux Lerchlera qui résonne deux fois dans la vie d'Abraham. Va-t'en pour toi. Dieu n'est pas captatif, c'est pas un amour qui dit viens ici que je te prenne pour t'accaparer. C'est un amour au contraire qui dit va ton chemin, épanouis-toi tout ce que j'ai mis de meilleur quand je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Et alors à ce moment-là tu reprends la route. Va-t'en pour toi. L'accent est mis bien sûr sur des ruptures qu'il faut faire, mais surtout sur le positif de l'aventure. Reprends ce que ta condition humaine a de plus fondamental et mets-toi en route. Alors, va vers le pays que je te montrerai, Asher Areka. Vous vous rappelez tous les jeux de mots qu'on a vus autour de Ra'a hier, voir celui qui nous voit, tout le langage de Jérusalem. Eh bien, on le retrouve encore, on le retrouvera demain et après-demain, et c'est toujours le thème fondamental. Voir celui qui nous voit et par le fait même devenir immortel. Alors Dieu lui dit, Lech lecha el eretz asher areka, sur la terre que je te montrerai. Alors il lui fait des promesses, Abraham est vieux, sa femme aussi, il lui promet une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Et Abraham croit, bien que sa femme soit stérile. Après avoir parlé, Dieu se tait. C'est encore plus difficile de croire quand Dieu se tait que quand il parle. Abraham continue à croire. Et puis le temps dure. Vous vous rappelez comment Sarah croit résoudre le problème en mettant dans les bras d'Abraham sa servante Agar, né Ismaël. C'est pas celui-là. Il faut en attendre un autre. Enfin, né Isaac, qui veut dire rire. Tout le monde rit. Il y a un récit merveilleux ici, l'annonciation de la naissance d'Isaac aux chaînes de Mambré. Alors, le petit Isaac, et tout le monde rit. Et puis, lorsqu'Isaac a grandi, une deuxième fois résonne ce mystérieux « Lech lecha ». Va-t'en, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et va vers le mont Moria. Et Moria, c'est la même racine que Areka. Va jusque la montagne en terre de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste complètement. Et remarquez, ce qui était scandaleux à cette époque-là, c'était pas d'offrir des enfants en sacrifice. Même ça se faisait couramment chez les Cananéens. Et même les exégètes vous diront que le but primitif de l'histoire d'Abraham, du sacrifice d'Isaac, c'était de montrer qu'il fallait pas faire comme les Cananéens. Intéressant parce que ça a fait tomber bien des objections qui traînent dans le cerveau du français moyen qui était à l'école de Voltaire, du dictionnaire philosophique, sur le Dieu cruel, etc. Et Dieu ne veut pas de sacrifices humains. Abraham, il devait penser que Dieu agirait parce que il dit, vous vous rappelez, au serviteur, restez là, nous allons prier sur cette montagne et nous reviendrons. Et vous vous rappelez comment le couteau était levé sur la gorge d'Isaac lorsque Dieu lui dit « Je sais maintenant que tu aimes Dieu parce que tu n'as pas épargné ton propre fils. » Abraham va jusqu'au fond de l'absurde. Et alors il a affaire à un Dieu vivant que les hommes auraient été bien incapables d'imaginer. Vous vous rappelez cette phrase de Voltaire « Dieu a fait l'homme à son image et l'homme lui a bien rendu. » Au contraire, là on a affaire à un Dieu complètement déconcertant. Et c'est à ce Dieu que nous avons affaire. Et quand il annonce la naissance d'Isaac, Sarah rit. Et alors la réponse du personnage mystérieux, c'est « Y a-t-il quelque chose d'extraordinaire pour Dieu ?»« Ah, yippale badonai davar !» Une phrase qui résonnera à travers toute la Bible, jusque dans le Nouveau Testament, lors de l'Annonciation. C'est la première des Annonciations qui s'accomplira dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Alors on se met en route à la découverte non pas du Dieu des philosophes, mais ce Dieu vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu vivant, si nous mettons à son école, va nous faire l'expérience dont nous avons parlé hier, c'est qu'il est plus fort que la mort. Et c'est comme ça que l'Épître aux Hébreux résume l'histoire d'Abraham. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras une postérité ». Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. Et c'est pour cela qu'il recouvra son fils et ce fut un symbole. Alors ici tout est dit, c'est l'histoire de toute destinée de celui qui prend la route à la recherche de Dieu. La Sainte Vierge dans son Magnificat, elle chante l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à sa descendance pour toujours. Et nous-mêmes, nous nous mettons en route comme cela, sans savoir où on va. Et un jour viendra où nous serons aussi à notre mont Moria. Et nous ferons l'expérience, peut-être au fond de l'absurde, on ne sait pas du tout où Dieu nous mène, que Dieu ne nous a pas quitté du regard. Et nous serons au seuil, alors, de cette expérience dont nous avons parlé hier à propos de Jérusalem, de cette vision de celui qui nous voit maintenant, que nous verrons alors comme il nous voit, et la connaissance sera transformante et nous serons divinisés. À ce moment-là, c'est toute la destinée de notre Père dans la foi. Alors, il n'y a pas doute qu'on a introjecté dans l'histoire d'Abraham toute expérience vécue du peuple à force de relecture. Et si vous lisez les notes de certaines éditions scientifiques, c'est très intéressant. On voit comment cette prise de conscience s'est faite dans la tradition. D'abord, c'était un récit pour montrer qu'il ne fallait pas faire comme les Cananéens les sacrifices humains. Ensuite, Dieu a droit à tout, puisqu'il est le créateur du monde. Alors on ne sacrifie pas les êtres humains, mais on les rachète. Vous rappelez le rachat des premiers-nés. Donc ce récit aurait pour deuxième but d'illustrer le rachat des premiers-nés. Ensuite, alors on admire la foi d'Abraham, quand même, sacrifier celui sur qui reposaient toutes les promesses. Mais alors on dirait que pour certains professeurs, au fur et à mesure qu'on avance comme ça, il y a comme une dévaluation dans le temps, vous voyez. Et puis alors, en fait, certains ajoutent, les pères de l'Église ont vu dans l'histoire d'Abraham une préfiguration de l'histoire du sacrifice du Christ au Golgotha. Comme si c'était quelque chose de vague, pour faire des concessions, si vous voulez, à quelques intégristes. Eh bien non. Alors là, ici, dans la Bible, le temps qui s'écoule est valorisant. Le temps permet une prise de conscience, et si les récits bibliques sont si intéressants, c'est parce qu'ils contiennent non seulement les événements journalistiques, si vous voulez, mais toute la méditation que le peuple a fait sur les événements. Et au fur et à mesure que le temps, que les siècles s'écoulent, alors toute la densité de méditation de ce peuple qui réfléchit sur son passé pour aller de l'avenir... La Bible ne garde du passé que ce qu'il y a de l'avenir. Et si on se retourne vers le passé, c'est pas pour faire des musées, pour nous complaire dans des nostalgies, c'est pour prendre un élan pour aller toujours plus loin. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va chercher un élan toujours plus loin vers le passé pour aller jusqu'à l'oméga de l'histoire. C'est le jeu de la mémoire que nous verrons de plus en plus. Le temps est valorisant. Et alors, cette histoire du rapprochement du sacrifice d'Isaac et du sacrifice du Christ, il est explicite. Citons au sens littéral dans le Nouveau Testament. Rappelez-vous Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Si on sait le grec et l'hébreu, eh bien sous le mot épargné, on retrouve pas le mot qu'il y a dans la Genèse, parce que tu n'as pas épargné ton propre fils. Et dans le Nouveau Testament, alors, c'est pas du tout une élucubration mystique ou gazeuse, la spirituelle, le mauvais sens du mot, entre guillemets. On y voit comme l'accomplissement, comme la réponse de Dieu au sacrifice d'Abraham. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ? Et puis alors déjà, avec notre Père dans la foi, on fait l'expérience d'un Dieu vivant, tellement vivant qu'il est capable de ressusciter les morts. Je vous relis ici ce passage de l'Épître aux Hébreux, auquel nous reviendrons souvent. C'est toute l'humanité en pèlerinage vers la cité de Dieu au solide fondement, dont Dieu est l'architecte et le fondateur, pas faite avec des briques mais avec des diamants. Chacun a un nom propre dans le cœur de Dieu. Nous sommes tous des pierres de cet édifice qui reflétera l'harmonie de Dieu, l'harmonie du mystère trinitaire, non seulement du Dieu un, mais du comment Dieu est un. Qu'il soit un comme nous sommes un, dans ce mystère de la Trinité. C'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensa-t-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un symbole. Eh bien, on sait déjà tout. Tenez, c'est très intéressant de revenir là-dessus. Une des grandes lois de la pédagogie divine. Dieu dit tout, et puis on le découvre au fur et à mesure. Tenez, on pourrait évoquer ici un vieux principe que tu as dû apprendre pendant tes études scolastiques. Ce qui est dernier dans l'ordre de l'exécution est premier dans l'ordre de l'intention. Ça veut dire que l'artiste, pas le chef-d'œuvre qu'il va produire au sommet de son existence, eh bien c'est ça qu'il a dans la tête dès le début. Ce qui arrive au terme, le but de la création, c'est ce que Dieu avait dans l'intention dès le début. Et on pourrait faire appel à nos expériences psychologiques ou vitales pendant les fiançailles. Je ne sais pas, moi je m'étais fiancé, mais on doit expérimenter un amour, pas idéal. Et puis ensuite, dans le réalisme de la vie conjugale, on a à poursuivre la réalisation d'un amour, mais dont on connaît l'existence dès le début. Et on part à la conquête de quelque chose qu'on connaît déjà. Pour prendre la vie religieuse, au novicier, on fait des expériences mystiques tout à fait sublimes. On se demande dans quel château intérieur on est arrivé en lisant Sainte Thérèse d'Avila. Et puis ensuite, dans la banalité de la vie telle qu'elle se présente, on continue à garder le cap pour la conquête de quelque chose, mais dont on connaît déjà l'existence. Alors c'est une des grandes lois de la pédagogie divine. Tenez, je vais vous relire ce texte de Guiton, parce que, encore une fois, cette retraite, nous inventerions toutes les manières que Dieu a de parler à l'homme, et puis toutes les méthodes qu'il a de procéder envers l'homme. Et on ne peut pas les trouver ailleurs. Parce que ce n'est pas le Dieu des philosophes, ce n'est pas un Dieu qui vient de nos spéculations, de nos projections, c'est un Dieu qui se révèle. Alors, une des premières grandes lois de cette pédagogie divine qui préside à notre dialogue personnel, à chacun de nous, avec le Dieu vivant, est énoncée admirablement même par Jean Guiton. C'est un livre qu'il a écrit sur la Vierge Marie, qui est le chef-d'œuvre de la création, en fin de compte. C'est elle qui est la Jérusalem céleste déjà réalisée. Et pour nous chrétiens, c'est merveilleux de savoir que, au fond, on part à la conquête de quelque chose qui existe déjà, qui est derrière nous, qui est devant nous et derrière nous. On est dans le Negev ici, il y a un petit point d'eau, et ça m'évoque une histoire merveilleuse, et qui illustre encore ce thème fondamental qui se développe tout au long de cette retraite, jour après jour, et qui se trouve dans les histoires qui sont dans l'histoire d'Abraham. Sarah n'a pas un comportement très noble, et lorsque Agar, qu'elle a mis elle-même dans les bras d'Abraham, est enceinte, elle devient jalouse. Lorsqu'elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarah dit à Abraham, tu es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai mis un savon entre tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que Dieu juge entre moi et toi. Alors Abraham n'a pas un comportement très noble. La Bible n'est pas un livre édifiant, elle montre Dieu qui prend les hommes de chair et sang tels qu'ils sont, tels que nous sommes, et puis qui les met en marche. Abraham a une attitude un peu lâche, il dit ta servante est entre tes mains, fais-lui comme il te semblera bon. Et Sarah la maltraita tellement que l'autre s'enfuit de devant elle. L'ange de Dieu la rencontra près d'une certaine source au désert. Et en hébreu c'est Ein HaMaim. Ein c'est l'œil de l'eau, l'œil est la source. Il dit à Agar, d'où viens-tu, où vas-tu? Je fuis devant ma maîtresse Sarai. L'ange de Dieu lui dit, retourne chez ta maîtresse et sois-lui soumise. Je multiplierai beaucoup ta descendance tellement qu'on ne pourra pas la compter. Tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yishmael. Dieu a entendu, Shmael. Ce sera un onagre d'homme, un onagre c'est un âne sauvage. Alors écoutez cette phrase. À Dieu qui lui avait parlé, Agar donna ce nom, tu es El Roi. Encore cette racine Ra, vous vous rappelez? Haché Areka, Moria, Ra ici. El Roi, ça veut dire tu es le Dieu qui me voit, Aroé Oti. Car dit-elle, ai-je encore vu ici après celui qui me voit? Voir celui qui nous voit. Elle est partout dans la Bible et c'est notre destinée. C'est pourquoi on appelait ce puits le puits de l'Ahai Roi. Il se trouve entre Kadesh et Bered. Et alors ici, près de ce puits de l'Ahai Roi, on a un récit merveilleux. Et Abraham devient vieux et alors il se préoccupe de trouver une femme pour son fils Isaac. Il ne veut pas qu'elle se marie avec une Cananéenne du coin. Alors il envoie un vieux serviteur en Mésopotamie. Alors le vieux serviteur il dit, mais si elle ne veut pas venir, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais ramener Isaac en Mésopotamie? Alors non. Tu seras délié du serment que tu viens de me faire. Parce que dans la Bible, voyez, on ne revient en arrière que pour mieux aller en avant. On interroge le passé que pour prendre son élan vers l'avenir. Et on ne retient du passé que ce qu'il y a de l'avenir. Alors le serviteur se met en route, et puis il part, il arrive. Alors il fit s'agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près du puits, à l'heure du soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser. Alors, il demande à Dieu un signe, pas dans la vie concrète. La jeune fille à qui je dirai, incline ta cruche que je boive, et qui répondra, bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, ce sera celle-là que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et je connaîtrai à cela que tu as montré ta bienveillance pour mon maître. Vous avez remarqué dans la Bible que le comportement des femmes envers les cruches est extrêmement révélateur de leur caractère. La Samaritaine qui oublie sa cruche, Marie-Madeleine, Marie de Béthanie, etc. Et alors ici, le critère, c'est la fille qui ne s'économise pas. Je lui demande un petit peu d'eau à boire, et c'est la même parole qu'au puits de Jacob dans l'évangile de Saint Jean. Et qui répondra, bois, et je vais donner à boire à tous tes chameaux. Et puis les chameaux, hein, c'est pas un petit travail de donner à boire à toute une caravane de chameaux. Alors c'est celle-là, une fille qui ne s'économise pas. Alors il n'avait pas fini de parler que Rebecca, elle avait sa cruche sur l'épaule, était très belle, elle était vierge, aucun homme ne l'avait approchée. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, s'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Et vite, oui, elle abaissa sa cruche sur son bras et le fit boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, je vais puiser aussi pour tous tes chameaux jusqu'à ce qu'ils soient désaltérés. Vite, elle vida sa cruche dans l'eau, je courus encore au puits pour puiser, puisa pour tous les chameaux. L'homme la considérait en silence, se demandant si Dieu l'avait ou non menée au but. Voilà toute la spiritualité biblique la plus fondamentale. Non pas élaborer des systèmes qu'on plaque sur la réalité, mais déchiffrer l'existence sous le regard de Dieu au fur et à mesure que cette existence se déroule. Et la Sainte Vierge ne faisait pas autre chose. Et elle méditait dans son cœur. Dieu lui avait tout dit, au fond, déjà à l'Annonciation, à la présentation au Temple, mais elle méditait dans son cœur le dessein de Dieu qui se réalisait dans le concret de son existence. Et le rosaire, c'est une grande chose. On emprunte les yeux, le cœur, l'intelligence, la mémoire de celle qui, mieux que personne au monde, a connu le Verbe incarné en qui réside la plénitude de la divinité corporellement. Nous participons à cette connaissance extraordinaire qu'elle a eue, non pas seulement intellectuelle, mais intuitive, aimante, amoureuse, des mystères de celui qui accomplit les Écritures. Mais cette spiritualité, on la trouve dès le premier soir, là. Ayant fait cette expérience, le vieux serviteur, il n'en finit pas de la raconter tellement ça l'a bouleversé. C'est pas idiot de rédiger son journal et puis à la fin de la journée de repasser les événements en essayant de découvrir leur signification providentielle, parce qu'il n'y a pas de hasard. Je me tiens près de la source. La jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, soulevez-moi un peu d'eau de ta cruche, qui répondra, bois, je puiserai aussi pour tes chameaux, ce sera la femme que Dieu a choisie, etc. Alors, il m'est arrivé ce qui est arrivé, j'ai mis cet anneau à ses narines et ses bracelets à ses bras, je me suis prosterné et j'ai adoré Dieu et j'ai béni le Seigneur Dieu de mon maître Abraham qui m'avait conduit par un chemin de bonté prendre pour son fils la fille du frère de mon maître. Alors il se met en route avec Rebecca, il revient et la scène ici se termine au puits de l'Ahaïroï, du puits du vivant qui me voit. Isaac était revenu du puits de l'Ahaïroï. Il habitait au pays du Négève. Or Isaac sortit pour se promener dans la campagne à la tombée du soir. Alors ici il y a un mot mystérieux, la souar. Ça veut dire se promener en méditant, en priant et en méditant. Et dans la cité juive, on rattache la prière du soir à cette promenade que Dieu fait le soir en méditant, la souar. Et levant les yeux, il vit que des chameaux arrivaient. Et Rebecca, levant les yeux, ses yeux qui se rencontrent sous le regard de celui qui voit, au puits du vivant qui me voit, extraordinaire, si j'avais un sabot de mariage, je ferais là-dessus, il n'y a pas de hasard. Elle sauta à bord du chameau et dit au serviteur, quel est cet homme-là qui vient dans la campagne? Pour le serviteur répondit, c'est mon maître. Elle arrêta son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite. Isaac introduisit Rebecca dans sa tente, il la prit, elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère. Ici, il faudrait interroger Madame Dolto. Pour savoir un peu ce qu'elle pense de cette évolution. Mais j'ai vu des psychologues quelquefois dans mes groupes et ils disaient quel dommage qu'au lieu d'aller chercher dans toutes ces mythologies étrangères, on ne puisse pas à pleine main dans ce trésor qu'est la Bible. On trouverait de quoi analyser les comportements humains dans ce qu'ils ont de plus élémentaire. La vie demande à être déchiffrée pour trouver sa vraie signification à la lumière de cette histoire sainte, qui est notre histoire.